La repentance envers Dieu. Connaissez-vous la différence entre la repentance selon Dieu et la tristesse selon le monde? Cet article pourrait changer votre vie de manière significative. Par Gérald Fleury. Description de la couverture. Sur la couverture, il y a un homme qui prie, la tête appuyée sur les mains. Il est vêtu d'une chemise blanche. L'arrière-plan est bleu. Le titre est en lettres blanches. Cette brochure n'est pas à vendre. Elle est publiée dans l'intérêt du public en tant que service d'éducation gratuit. Copyright 2014, Église de Philadelphie de Dieu, tout droit réservé. Imprimée aux États-Unis d'Amérique. Les écritures citées dans cette publication sont, sauf indication contraire, issus de la version Louis Segond. Citation. Permettez-moi ici de dire quelque chose sur la conversion que je pense la plupart des gens ne comprennent pas. Fin de citation, a écrit Herbert W. Armstrong dans son autobiographie, volume 1. Citation. La repentance exigée comme condition pour être véritablement converti en recevant l'Esprit Saint de Dieu est bien différente de ce que la plupart des gens supposent. C'est infiniment plus que simplement être d'accord avec certaines doctrines. Qui que vous soyez, vous avez ou avez eu une idole. Vous avez eu un autre Dieu devant le vrai Dieu vivant et tout-puissant. Ça pourrait être votre propre vanité ou votre travail. Ou profession, très souvent, c'est l'opinion de vos amis, votre famille, votre groupe, ou vos contacts sociaux ou d'affaires. Mais quelle qu'elle soit, cette idole doit d'abord être écrasée, brisée. Elle doit être littéralement arrachée de votre esprit. Même si ça fait plus mal que d'avoir toutes vos dents arrachées, et peut-être la mâchoire aussi. Je ne connais pas d'anesthésie qui rendrait cela agréable. Habituellement, ça semble plus atroce que l'agonie de la mort par la plus cruelle torture. Je n'ai jamais été converti jusqu'à ce que j'aie été amené au point de réaliser ma propre nullité et la grandeur universelle de Dieu, jusqu'à ce que je me sente complètement battu, vaincu, quand j'en suis venu à me considérer comme un vaurien, un tas de détritus humains, ne valant même pas d'être jeté sur le monceau des épaves humaines, véritablement rempli de remords pour avoir imaginé que j'étais quelqu'un, complètement, totalement et amèrement désolé pour la direction dans laquelle j'avais mené ma vie et les choses que j'avais faites, réellement et véritablement repentant. Fin de citation. Ceci est une repentance très profonde, et comme l'a dit M. Armstrong, la plupart des gens ne la comprennent pas. Avez-vous appris à vous repentir de la façon dont M. Armstrong l'a décrit? Citation. J'ai dit à Dieu que j'étais maintenant prêt à me donner entièrement à lui donner ma vie. Fin de citation. A-t-il poursuivi? Citation. Elle était maintenant sans valeur pour moi. S'il pouvait l'utiliser, je lui ai dit qu'il pouvait l'avoir. Je ne pensais pas, alors, qu'elle était utilisable, même dans les mains de Dieu. Mais laissez-moi dire au lecteur, si Dieu pouvait prendre ce qui était complètement vaincu, inutile, l'échec avoué auquel j'avais été réduit, et utiliser cette vie pour développer et construire ce qu'il a fait, il peut prendre votre vie aussi, et l'utiliser d'une manière dont vous ne pouvez simplement pas maintenant imaginer. Si vous la lui remettez sans réserve et la laissez entre ses mains. Fin de citation. Combien d'entre nous ont fait cela? Citation. Ce qui s'est passé depuis ne me donne aucune gloire, mais amplifie encore la puissance de Dieu à prendre un outil sans valeur et accomplir sa volonté à travers cet outil. Mais ne supposez jamais que ce fut facile. Si une mère souffre les douleurs de l'enfantement pour que son enfant puisse naître, La plupart d'entre nous auront à souffrir pour naître de nouveau de Dieu, même dans cette première étape d'engendrement que nous appelons conversion.
Fin de citation.
Monsieur Armstrong décrivait une capitulation totale à Dieu. Monsieur Armstrong a bâti une œuvre qui générait plus de 200 millions de dollars annuellement. Il diffusait sur 400 chaînes de télévision chaque semaine et il a publié une revue importante, La Pure Vérité, ayant un tirage de 8 millions de copies.
Dieu l'a puissamment utilisé. La conversion est un processus de toute une vie.
Devenir converti est de voir les pensées de Dieu, plutôt que les pensées, les émotions et les désirs charnels. Nous devons penser comme Dieu. Cela est très difficile à réaliser et un profond sujet à méditer. Nous devons constamment grandir dans notre conversion. Le baptême n'est que la pointe de départ.
Voici comment l'apôtre Paul l'a décrit. Je cite, « Annonçons aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. » Fin de citation. Acte 20, verset 21. Beaucoup de gens savent pourquoi nous devons avoir la foi en Jésus-Christ. Nous devons accepter et croire en son sacrifice afin d'être réconciliés avec Dieu et de recevoir le Saint-Esprit.
Mais à quel point comprenez-vous la repentance envers Dieu?
Le péché de David. Il y a beaucoup d'excellents exemples de la repentance envers Dieu dans la Bible.
L'un des plus clairs est celui de David. David avait une faiblesse pour les belles femmes. Il traînait ce problème avec lui depuis un certain temps. Il n'avait pas réussi à la surmonter et des choses terribles ont explosé en Israël à la suite de ce péché.
Des milliers de gens ont souffert et sont morts.
Bathsheba, la femme de l'un des meilleurs capitaines de David, s'adonnait à se baigner nue sur un toit un jour. Elle devait savoir que David pouvait la voir. Son mari était parti à la guerre, et elle n'affichait pas une très grande loyauté envers lui en son absence. David prit une décision ce soir-là qui fut gravée dans sa mémoire pour le reste de sa vie.
Une pour laquelle il souffrit depuis ce jour à cause de ce qu'il avait fait à tout Israël.
Bathsheba devint enceinte et David avait maintenant un gros problème. Alors il commença à manigancer. Il envoya un message au mari de Bathsheba, Uri, et rentrait à la maison pour être avec sa femme. Mais Uri avait plus de caractère que David à ce moment-là. Il ne voulait pas dormir avec elle pendant que ses camarades étaient encore au combat. Alors, le premier plan de David ne fonctionna pas.
David imagina un deuxième plan.
Deux hommes ont essayé d'enivrer Uri afin qu'il dorme alors avec Bathsheba. Mais Uri ne voulut toujours pas coopérer. David devenait désespéré et de plus en plus éloigné de Dieu. Son troisième plan était encore pire. Il chargeait le commandant d'Uri de l'envoyer sur la ligne de front, au point le plus chaud de la bataille, de sorte qu'il soit tué. Et c'est exactement ce qui se passa. Les choses semblèrent bien aller durant quelques mois. David prit Bathsheba pour épouse. David pensa qu'il avait échappé à toutes les conséquences. Mais alors, un prophète de Dieu entra en scène. David était sur le point d'apprendre une profonde leçon sur la repentance.
Citation.
L'Éternel envoya Nathan vers David, et Nathan vint à lui et lui dit « Il y avait dans une ville deux hommes, l'un riche et l'autre pauvre. » Fin de citation, 2 Samuel 12, verset 1. Le prophète Nathan commença à raconter cette histoire à David, d'un homme riche avec de nombreux agneaux, et un homme pauvre qui aimait chèrement sa petite brebis. Il raconta que l'homme riche accueillit chez lui un voyageur, et au lieu de prendre un agneau de ses propres troupeaux, citation, il a pris la brebis du pauvre et l'a prêtée pour l'homme qui était venu chez lui.
Fin de citation, verset 4.
Cette histoire a profondément irrité David. Citation. La colère de David s'enflamma vilement contre cet homme. Et il dit à Nathan, « L'Éternel est vivant. L'homme qui a fait cela mérite la mort. » Fin de citation, verset 5. Un jugement sévère. Cet homme doit mourir, dit-il, parce qu'il s'est montré sans pitié. Verset 6. 2 Samuel 12, verset 6 dit, citation, et il rendra 4 brebis pour avoir commis cette action et pour avoir été sans pitié. Fin de citation. Il n'avait pas réalisé que la parabole que Nathan avait dite était en fait une image de la façon dont il avait lui-même traité Uri en prenant pour lui-même la précieuse femme de cet homme. En fait, David avait commis des péchés beaucoup plus graves que cet homme riche, qu'il était si prompt à condamner à mort. À ce moment, Nathan exposa les péchés de David sur la place publique. Citation. « Tu es cet homme-là !» Fin de citation, lui dit-il. Verset 7. La réalisation de David. Citation. « Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à ses yeux ?» Fin de citation, demande à Nathan. Une question difficile. Citation. « Tu as frappé de l'épée Uri le Héthien ?» Tu as pris sa femme pour en faire ta femme, et lui, tu l'as tué par l'épée des fils d'Amon. Fin de citation. 2 Samuel 12, verset 9. Tu as fait l'acte, David, dit Nathan, même si tu n'as pas toi-même soulevé l'épée. Dieu savait tout, chaque détail du péché macabre de David. D'une certaine façon, David s'était tellement éloigné de Dieu qu'il ne pensait pas que Dieu savait. Ce péché déchira la vie de Bathsheba. Sa famille fut détruite, et même son bébé, que David avait engendré, mourut. Tout Israël le sut, tout le monde devait savoir, parce que David n'avait pas confronté le problème quand il aurait dû. Alors que tout cela se passait, Absalom, le fils de David, pensa, « Eh bien, il n'est pas qualifié pour gouverner. » Dieu l'a montré. Je vais prendre la relève. Et il se leva et conduisit les Israélites contre David, et 23 000 d'entre eux furent tués. Tout cela parce que David avait péché. Citation. Maintenant, l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison, parce que tu m'as méprisé, et parce que tu as pris la femme d'Uri le Héthien pour en faire ta femme. Fin de citation, verset 10. Dieu était-il trop dramatique ou émotif ici? « Tu me méprisais, moi, Dieu » a-t-il dit à David. Lisez les versets 11 et 12, où Dieu l'a frappé d'un jugement très dur. 2 Samuel 12, versets 11 et 12, dit, citation, « Ainsi parle l'Éternel. Voici, je vais faire sortir de ta maison le malheur contre toi, et je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à un autre, qui couchera avec elles à la vue de ce soleil. » Verset 12. Car tu as agi en secret, et moi je ferai cela en présence de tout Israël et à la face du soleil. Fin de citation. David était le roi d'Israël, il était responsable devant tout le peuple. Il a été puni en conséquence. Maintenant, remarquez la réponse de David. Citation. J'ai péché contre l'Éternel. Fin de citation, verset 13. Une réponse très intéressante. Il n'a pas dit qu'il avait péché contre Uri ou Bathsheba ou tout Israël. Après tous les ravages qu'il avait causés dans tant de vie, sa principale préoccupation était ce qu'il avait fait à Dieu. Lorsque vous péchez, vous rendez-vous compte que vous péchez contre Dieu? Citation. Et Nathan dit à David, L'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras point. Mais parce que tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel, en commettant cette action, le fils que t'es né mourra. Fin de citation, versets 13 à 14. Quand nous péchons, nous donnons aux gens l'occasion de blasphémer Dieu. Nous pouvons apporter toutes sortes de problèmes dans l'Église. La raison en est que nous représentons Dieu.
Psaume 49. Les psaumes 49, 50 et 51 parlent tout de la repentance de David de son péché.
Citation.
Écoutez ceci, vous tous, peuple. Prêtez l'oreille, vous tous, habitants du monde.
Fin de citation. Psaume 49, verset 2.
Il a fait une proclamation publique dans le monde entier. David a vraiment révélé son cœur dans ce psaume comme peu d'autres personnes le pouvaient.
Considérez cela. Nous mettons ces psaumes sur de la musique et nous les chantons aujourd'hui.
Au verset 5, citation.
Je prête l'oreille aux sentences qui me sont inspirées.
Fin de citation.
Parle de la parabole que Nathan lui a dite, une parabole que David n'a jamais oubliée.
Citation. Pourquoi craindrais-je au jour du malheur lorsque l'iniquité de mes adversaires m'enveloppe?
Fin de citation, verset 6.
David se lamentait de sa première attitude. Pourquoi devrais-je avoir peur? Je suis le roi. Les rois ne peuvent-ils pas s'en tirer sans problème avec le péché?
Mais il savait maintenant qu'il ne pouvait pas ramener Uri.
Citation.
Ils ne peuvent se racheter l'un l'autre, ni donner à Dieu le prix du rachat.
Ils ne vivront pas toujours. Ils n'éviteront pas la vue de la fosse.
Fin de citation. Versets 8 et 10.
Je suis impuissante à l'aider, même si je suis un roi. Je ne peux pas le racheter ou lui donner la vie éternelle. Que puis-je faire? Demanda David.
Citation. Le rachat de leur âme est cher et n'aura jamais lieu.
Fin de citation. Verset 9.
David réalisait la nécessité du sacrifice du Christ. Il y aurait beaucoup d'injustices dans ce monde jamais correctement résolues s'il n'y avait pas quelqu'un pour nous ressusciter et nous donner une chance de naître dans la famille de Dieu.
Citation.
Car ils verront, les sages meurent, l'insensé et le stupide périssent également, et ils laissent à d'autres leurs biens. Ils s'imaginent que leurs maisons seront éternelles, que leurs demeures subsisteront d'âge en âge, eux dont les noms sont honorés sur la terre. Mais l'homme qui est en honneur n'a point de durée. Il est semblable aux bêtes que l'on égorge.
Fin de citation, versets 11 à 13.
Les gens pensent, peut-être seulement inconsciemment, qu'ils vont vivre pour toujours. Mais à la fin, ils meurent tout comme le font les animaux.
Tous les hommes meurent et c'est la fin, disait David.
Versets 14 et 15.
Psaume 49, versets 14 et 15 dit, citation.
Telle est leur voie, leur folie, et ceux qui les suivent se plaisent à leur discours.
Pause.
Verset 15.
Comme un troupeau, ils sont mis dans le séjour des morts. La mort en fait sa pâture. Et bientôt les hommes droits les foulent aux pieds.
Leur beauté s'évanouit. Le séjour des morts est leur demeure.
Fin de citation.
Lorsque vous péchez, peut-être que vous voyez comment votre péché blesse d'autres personnes. C'est ce que David voyait ici. Mais avez-vous la repentance envers Dieu?
Vous devez être prudent de ne pas avoir seulement le regret humain pour votre péché, parce que cela ne vous amènera pas à surmonter vos problèmes.
Notre repentance doit dépasser le niveau humain.
Seule la tristesse divine,
la repentance envers Dieu, vous permettra de vaincre.
Donc, à ce stade, David avait encore beaucoup à apprendre sur le repentir.
Psaume 50.
Citation.
Ce n'est pas pour tes sacrifices que je te fais des reproches. Tes holocaustes sont constamment devant moi.
Fin de citation. Psaume 50, verset 8.
David avait fait des sacrifices alors qu'il péchait, et Dieu disait, « Cela ne veut rien dire pour moi, David.
Toutes choses appartiennent à Dieu. » Versets 10 à 12.
Psaume 50, versets 10 à 12, dit, citation,
« Car tous les animaux des forêts sont à moi, toutes les bêtes des montagnes par milliers. »
Verset 11.
« Je connais tous les oiseaux des montagnes, et tout ce qui se mue dans les champs m'appartient. »
Verset 12.
« Si j'avais faim, je ne te le dirais pas, car le monde est à moi,
et tout ce qu'il renferme. Fin de citation. Il n'a pas besoin de tout cela de nous. Ces sacrifices étaient seulement pour diriger les gens vers le sacrifice du Christ. C'est là le sacrifice dont nous devons nous préoccuper. Lorsque vous péchez, vous plongez une lance dans le côté du Christ. C'est la raison pour laquelle il est mort, parce que vous et moi avons péché. Si personne d'autre ne devait jamais entrer dans le royaume de Dieu, sauf vous, le Christ lui-même aurait quand même dû se soumettre à cette exécution macabre. Il y a un terrible châtiment pour le péché, et quelqu'un doit payer. C'est la façon dont les choses doivent se faire, selon la loi de Dieu. Dieu a vraiment réprimandé David ici. Citation. « Toi qui haïs les avis et qui jettes mes paroles derrière toi. » Fin de citation, verset 17. David en était venu au point où il détestait la parole de Dieu et sa loi. Il était le roi, censé donner l'exemple pour tout Israël. Donc, Dieu avait raison d'être en colère contre David.
David avait oublié son alliance avec Dieu. Nous faisons également une alliance avec Dieu au baptême.
Lisez les versets 18 à 20. Psaume 50, versets 18 à 20, dit, citation, « Si tu vois un voleur, tu te plaises avec lui, et ta part est avec les adultères. » Verset 19, « Tu livres ta bouche au mal, et ta langue est un tissu de tromperie. » Verset 20, « Tu t'assieds et tu pars contre ton frère. Tu diffames le fils de ta mère. » Fin de citation. Dieu devient spécifique quant à la culpabilité qui était sur la tête de David. Il avait commis le vol, l'adultère, le meurtre, la tromperie, la calomnie, une multitude de péchés horribles. Citation. Voilà ce que tu as fait, et je me suis tu. Tu t'es imaginé que je te ressemblais, mais je vais te reprendre et tout mettre sous tes yeux. Fin de citation, verset 21. Dieu avait laissé s'écouler 9 mois avant de faire quoi que ce soit à propos du péché de David. Pourquoi? Parce qu'il donnait à David une chance de se repentir, mais David ne l'a jamais fait. Il a commencé à penser, « Dieu pense comme moi, je suis sur la bonne voie. » Mais Dieu ne pense pas comme nous. Nous devons mettre notre pensée en accord avec la sienne. Il va souvent attendre que nous nous repentions, comme il a fait avec David. Nous voulons être certains de ne jamais le faire attendre trop longtemps. Dieu a été patient avec David, et il est patient avec nous. Si vous voyez vraiment vos péchés, vous savez que c'est vrai. Il est patient et miséricordieux. Mais vous n'êtes pas au-dessus de la loi. Aucun de nous ne l'est. David avait pensé qu'il l'était, mais Dieu a corrigé cette attitude. Tout le monde est soumis à la loi. C'est pourquoi le Christ est mort, car une pénalité doit toujours être payée à la loi. Le psaume 50 montre que David se répand plus amèrement. Il apprenait la repentance en vertu. Cela va beaucoup plus loin que la simple réalisation du fait que, par exemple, en tant que parent, ça nous fait de la peine quand nos enfants font quelque chose de mal. Nous pouvons nous comparer à Dieu à ce niveau-là, mais la repentance envers Dieu va encore plus profondément que cela. La bonté de Dieu. Citation. Et penses-tu, ô homme, qui juge ceux qui commettent de telles choses et qui les fait, que tu échapperas au jugement de Dieu? Ou méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? Fin de citation. Romains 2, versets 3 et 4.
De toute évidence, la repentance vient de l'Esprit Saint.
Mais ici, il dit que la bonté de Dieu nous y mène. Vous rendez-vous compte combien Dieu est bon? Combien il est bon pour vous? Combien il vous a donné? Quand nous nous évaluons et nous nous comparons à la bonté de Dieu, nous voyons combien méchants nous sommes. Comparez votre bonté avec celle de Dieu, et là vous commencez à comprendre pourquoi nous avons vraiment besoin de nous repentir envers Dieu et non envers l'homme. Combien Dieu est-il bon? Il suffit de penser à la crucifixion du Christ. Notez Genèse 22. Après qu'Abraham ait prouvé qu'il était prêt à sacrifier son fils pour Dieu, le Dieu qui devint plus tard Jésus-Christ a dit ceci.
Citation.
Je le jure par moi-même, dit l'Éternel,
parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Fin de citation, versets 16 et 17.
Dieu jurait par lui-même en faisant cette promesse à Abraham.
En d'autres termes, il disait à Abraham, « Je vais donner ma vie pour toi, ou je vais mourir en essayant. Parce que tu as commis cet acte, ma mort va payer pour tes péchés, et je vais t'amener dans ma famille.
Je le jure par ma propre vie. »
Oui, quand le Christ est venu sur cette terre, sa vie était en jeu. Il pourrait en effet pécher. La vie du Christ comportait le plus grand risque dans l'histoire de l'homme. Mais il a pris, parce qu'il voulait des gens comme Abraham dans sa famille. Des personnes qui se lèveraient et sacrifieraient leur propre fils si nécessaire, sachant que Dieu les ressusciterait pour remplir une promesse.
Hébreux 11, verset 17 à 19.
Hébreux 11, verset 17 à 19 dit, citation,
c'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac, lorsqu'il fut mis à l'épreuve, et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses.
Verset 18. Et à qui il avait été dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Verset 19. Il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts. Aussi le recouvra-t-il par une sorte de résurrection. Fin de citation. Abraham avait ce genre de foi et de confiance en Dieu, et Dieu lui a rendu plusieurs fois cet amour. À toutes les personnes qui peuvent se repentir comme toi, Abraham, je vais donner ma vie pour eux. Je sais que si je ne réussis pas, personne ne réussira. Mais je vais le faire afin que nous puissions bâtir la famille de Dieu. C'est le prix qui a dû être payé pour que nous puissions recevoir l'Esprit Saint de Dieu. Si le Christ avait échoué, Dieu le Père aurait été assis en solitaire pour le reste de l'éternité. C'est le genre de sacrifice que ces dieux ont fait pour nous.
Nous pouvons oublier cela dans notre pensée charnelle insensible.
Mais Dieu le Père et le Christ l'ont fait, et ils l'ont fait pour vous. Il veut que vous soyez au courant de cela, non pas par vanité, mais afin que vous reconnaissiez que la repentance doit être envers Dieu.
Nous devons comprendre la repentance si nous voulons entrer dans la famille Dieu.
Méditez profondément sur la bonté de Dieu. Elle est contraire à tout ce que nous voyons dans ce monde misérable et mauvais. Dieu n'aurait même jamais pensé à se laisser aller à commettre ce que David a fait. Il n'est pas comme ça.
Son esprit est en parfait accord avec sa loi dans les moindres détails.
Un psaume à propos du Christ. David a écrit le psaume 22 avant d'avoir commis le péché avec Bathsheba. Après sa repentance, il est sans doute revenu à ce psaume pour y passer beaucoup de temps à pleurer sur lui, à vraiment le comprendre pour la première fois. Parce que ce psaume n'aurait pas pu s'appliquer à David,
il ne s'appliquait qu'à Jésus-Christ.
Citation. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Étais loin de Dieu sans me secourir, sans écouter mes plaintes. Fin de citation, psaume 22, verset 2, selon la version Louis Segond. Ce sont les paroles que le Christ a criées juste avant sa mort. Matthieu 27, verset 46. Matthieu 27, verset 46 dit, citation, et vers la neuvième heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Eli, Eli, lama sabachthani, c'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Fin de citation. Le Christ devait être abandonné parce qu'il était devenu péché. C'était la première fois dans l'histoire éternelle où le Christ eut connu ce que c'était que d'être abandonné par Dieu à cause du péché. Pouvez-vous voir votre part dans l'angoisse que le Christ suffert à ce moment-là? Il n'était pas impossible au Christ de pécher
comme certains du propre peuple de Dieu l'ont dit, il devait avoir la foi en Dieu tout au long de sa vie. Citation. Tous ceux qui me voient se moquent de moi. Ils ouvrent la bouche, secouent la tête. Recommande-toi à l'Éternel. L'Éternel le sauvera.
Il le délivrera puisqu'il aime.
Fin de citation, psaume 22, versets 8 et 9. Voir aussi Matthieu 27, verset 43. Matthieu 27, verset 43 dit, citation, « Il s'est confié en Dieu, que Dieu le délivre maintenant s'il l'aime, car il a dit, je suis fils de Dieu. » Fin de citation. Le Christ a fait confiance à Dieu. Lorsque nous faisons la même chose, pouvons-nous pécher? Bien sûr, nous le pouvons. Et donc le Christ le pouvait aussi. Dire qu'il était impossible pour le Christ de pécher enlève toute la majesté de sa réalisation. Cela détruit son sacrifice. Le Christ s'est totalement remis à Dieu. Il lui fit confiance d'une manière que nous n'avons jamais appris à faire. Il marchait par la foi comme nous le devons. S'il n'y avait eu aucun risque, ce ne serait pas de la foi. Pourquoi aurait-il eu à marcher par la foi si lui eût été impossible de pécher? Il aurait été un simple robot. Citation.
Ils ouvrent contre moi leur gueule,
semblable au lion qui déchire et rougit. Je suis comme de l'eau qui s'écoule, et tous mes os se séparent. Mon cœur est comme de la cire, il se fond dans mes entrailles. Ma force se dessèche comme l'argile, et ma langue s'attache à mon palais. Tu me réduis à la poussière de la mort. Fin de citation. Psaume 22, versets 14 à 16. Est-ce là quelqu'un qui ne pouvait pas pécher? Non, ce sont les paroles d'un homme qui était à la limite, donnant tout ce qu'il pouvait pour éviter de perdre sa foi. Le Christ était à la limite à cause de nos péchés. Il a reçu une raclée terrible à cause de nos péchés. Regardez cela du point de vue de Dieu. Il pourrait facilement dire, « Oui, je sais ce que tu as fait à Uri. Je sais ce que tu as fait à Bathsheba et à Israël. Mais qu'est-ce que tu as fait à moi? Tu as mis à mort mon fils. » Et tu as soumis son père à une agonie encore pire. C'est également pour cela que la repentance doit être envers Dieu. Le péché est quelque chose qui doit nous horrifier. Nous devons être conscients de ce que le Christ a fait pour nous.
Croissez dans la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ.
Ayez foi en ce sacrifice, puis repentez-vous envers Dieu qui a planifié le tout. Vous savez, surtout si vous êtes un parent, que le Père a dû souffrir horriblement avec le Christ. Si vous avez des problèmes récurrents dans votre vie, évaluez-vous par cette mesure. Vous repentez-vous envers Dieu? Réalisez votre méchanceté devant Dieu. David était un homme très méchant, mais il est devenu très juste, si vertueux qu'il régnera sur Israël pour toujours. Il y aura certainement des gens qui serviront sous lui, qui n'ont jamais commis des actes aussi mauvais que les siens. Mais la différence est que David savait vraiment comment se repentir. Psaume 51. Continuons à étudier les psaumes de repentance de David. Citation. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Fin de citation. Psaume 51, verset 3, selon la version Louis II. David n'a pas eu pitié d'Uri, et pourtant, il pouvait encore venir devant Dieu et demander grâce.
C'est ainsi que Dieu et David le savaient. Comme il est merveilleux d'avoir un tel Dieu aimant, bon et miséricordieux, même quand nous pouvons être si impitoyables parfois.
Le verset conclut, je cite,
« Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. »
Fin de citation. Il y avait plus d'un péché en cause ici. David avait fait à peu près tout ce qu'il y avait de mal à faire. C'est ainsi que nous sommes en dehors de Dieu. Citation. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Fin de citation, verset 4. Combien de fois nous sommes-nous présentés devant Dieu et avons-nous demandé d'être lavés en le pensant vraiment, sincèrement? il faut du courage pour demander à Dieu de vous montrer où vous n'êtes pas propre et de lui demander de vous nettoyer là aussi. Citation. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. Fin de citation. Verset 5. David n'essayait plus de cacher quoi que ce soit. Il a mis son péché juste là devant Dieu et s'en est occupé. Citation. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Fin de citation, verset 6. David pouvait voir la justice de Dieu. Il comprenait la bonté de Dieu. Il avait honte de venir devant Dieu après ce qu'il avait fait. Mais Dieu était présent dans la vie de David comme il ne l'avait jamais été auparavant. David vit clairement sa propre nature humaine. Citation. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur, fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Fin de citation, versets 7 et 8. Pensez-vous comme Dieu? Dieu désire que nous ayons la vérité au fond du cœur, tout comme il a lui-même. Il veut que nous pensions comme il le fait. Il ne suffit pas de prétendre que nous pensons de la bonne façon. Cela doit être ce que nous sommes au fond de notre cœur. C'est la leçon que Dieu a enseignée à David. Comparez-vous aux autres et vous pouvez penser « Eh, je ne fais pas si mal ». Mais comparez-vous à Dieu et vous connaîtrez vraiment la repentance. La bonté de Dieu nous conduit à la repentance. David a vraiment accepté la correction de Dieu ici. Citation. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les os que tu as brisés se réjouiront. Fin de citation. Versets 9 et 10. Voici une bonne attitude.
Tu as brisé mes os, Dieu. Maintenant les feras-tu se réjouir?
Citation. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Fin de citation, verset 11. Ceci est la vraie repentance envers Dieu. David était à la recherche de la bonté de Dieu et il était tellement gêné de son propre péché qu'il dit simplement « Dieu, quand je me présente devant toi, pourrais-tu tout simplement détourner ton regard ?» Ésaïe dit que quand il était en présence de Dieu, il était un homme aux lèvres impures. Ésaïe 6, verset 5. Ésaïe 6, verset 5 dit, citation. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Fin de citation. C'est une attitude très repentante. Vous ne viendrez jamais devant Dieu de cette façon si vous vous comparez à d'autres hommes plutôt qu'à Dieu. Mesures extrêmes.
Nous entendons souvent dire que nous devons devenir comme un enfant pour atteindre le royaume de Dieu. Citation.
En ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ?» Jésus, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit « Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez, et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Fin de citation. Matthieu 18, verset 1 à 3.
Cela semble assez facile de simplement devenir humble comme un enfant.
Ensuite, vous êtes dans le royaume et tout ira bien. Mais remarquez, le Christ poursuit, citation. Si ta main ou ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-les et jette-les loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie boiteux ou manchot que d'avoir deux pieds ou deux mains et d'être jeté dans le feu éternel. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie n'ayant qu'un œil que d'avoir deux yeux et d'être jeté dans le feu de la Géhenne. Fin de citation, versets 8 et 9.
Il faut ce genre d'action parfois pour devenir comme un petit enfant.
Si vous avez un problème sur lequel vous n'avez pas d'emprise, un domaine où vous n'avez pas l'attitude d'un enfant, le Christ dit « Faites tout ce que vous devez pour le surmonter. Devenez comme un enfant et allez à l'extrême pour vous assurer de rester ainsi. Vous ne pouvez pas dire « Écoute, je ne veux pas qu'on me dise quoi faire. » Le Christ exige que nous gardions une loi stricte. Même regarder une femme pour la convoiter est considéré comme de l'adultère. Et le Christ dit que nous devons figurativement arracher notre œil si nous ne pouvons pas le contrôler. Matthieu 5, versets 27 à 29. Matthieu 5, versets 27 à 29 dit, citation, « Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. » Verset 28. « Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. » Verset 29. « Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la Géhenne. » Fin de citation. À moins que nous le fassions, nous méprisons Dieu tout comme David l'a fait. Parfois, nous devons aller aux extrêmes pour surmonter. Un cœur pur. Citation. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Fin de citation. Psaume 51, verset 12, selon la version Louis II. Dieu doit créer un cœur pur en nous. David réalisa ici que son esprit avait totalement tort et que Dieu devait créer et renouveler son esprit en lui. David pourrait avoir presque perdu l'Esprit Saint lors de cet épisode. Il a prié, je cite, « Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. » Fin de citation, verset 13. Vous pouvez certainement commettre des actes atroces et encore avoir l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi nous devons rester très proches de Dieu. David a laissé sa faiblesse prendre le meilleur sur lui-même et cela lui a presque coûté son salut. Par exemple, Psaume 73, verset 2. Psaume 73, verset 2 dit, citation, « Toutefois, mon pied allait fléchir, mais pas été sur le point de glisser. » Fin de citation. Si vous gardez un peu de levain dans votre vie, il va se répandre jusqu'à ce que votre esprit soit rempli de levain. Galates 5, verset 9. Galates 5, verset 9 dit, citation, un peu de levain fait lever toute la pâte. Fin de citation. Nous ne pouvons jamais nous permettre de ne pas nous repentir envers Dieu. Citation. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Fin de citation. Psaume 51, verset 14. Notez, même si David faisait des choses excitantes, comme de commettre l'adultère, toute sa joie avait disparu. Il était malheureux parce qu'il violait la loi de Dieu. Il n'y a rien d'excitant ou de joyeux à cela. Si nous violons la loi de Dieu, nous perdons notre joie. Elle ne peut être ranimée qu'en nous repentant et en restant près de Dieu. David a réellement utilisé cet incident pour changer les choses. Il s'est mis à faire des grandes œuvres pour Dieu. Citation. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent, et les pécheurs reviendront à toi. Fin de citation, verset 15. David voulait détourner autant de gens que possible vers les voies de Dieu pour leur enseigner la loi de Dieu. Et c'est exactement ce qu'il a fait. En fait, il le fait encore, par son exemple et ses paroles merveilleuses. Citation. Ô Dieu, Dieu de mon salut! « Délivre-moi du son verset. » Fin de citation, verset 16. Quel son verset? Celui de Jésus-Christ. David savait que le Christ devait mourir à cause de son péché, ce qui était réellement le son dont il était coupable d'avoir versé, pas celui du riz. Réalisez-vous que vous êtes coupable d'avoir versé du son? Ne prenez pas vos péchés à la légère. Ils ont coûté le son de Jésus-Christ pour payer pour eux. Le Dieu à qui David priait était celui qui devrait éventuellement mourir. David reconnut cela, et il fut ému par cela.
Même si ce sacrifice n'était pas encore arrivé physiquement, c'était comme si David était lui-même parmi les soldats romains, prenant cette lance et la poussant dans son côté. Comme il est dit dans le verset 18, « Dieu désire tellement plus que les holocaustes et les sacrifices. » Citation. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Oh Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Fin de citation, verset 19. Ce qui a vraiment affecté David, c'est qu'il commençait à voir ce qu'il avait fait à Dieu, ce que ses péchés feraient subir au Christ. Et son esprit brisé, par conséquent, était exactement le genre de sacrifice que Dieu cherchait en lui. David sera récompensé par une excellente position dans le royaume de Dieu. Il règnera sur les 12 tribus d'Israël. Jérémie 30, verset 9 et Osée 3, verset 5. Jérémie 30, verset 9 dit, citation, « Ils serviront l'Éternel leur Dieu et David leur roi, que je leur susciterai. » Fin de citation. Osée 3, verset 5 dit, citation, « Après cela, les enfants d'Israël reviendront, ils chercheront l'Éternel leur Dieu et David leur roi, et ils tressaileront à la vue de l'Éternel et de sa bonté dans la suite des temps. » Fin de citation. Puis David leur enseignera à se repentir comme il le faisait. Tristesse selon Dieu ou selon le monde. Voici une description de la repentance que tu d'Israël connaîtras un jour. Citation. Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure pour un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. Fin de citation, Zacharie 12, verset 10. Nous devons nous efforcer d'atteindre ce genre de repentance aujourd'hui. Nous sommes tous les assassins du Christ. Nous avons tous tué le fils premier-né de notre Père bien-aimé. Et si nous pensons comme Dieu le fait, nous connaîtrons la même intensité d'émotion au sujet de ce que nous avons fait que si nous avions perdu un fils premier-né. Ceci nous amène au cœur de la différence entre la tristesse selon Dieu et la tristesse du monde. Citation. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à celui dont on ne se repent jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Fin de citation, 2 Corinthiens 7, verset 10. La raison pour laquelle on ne se repent jamais de la tristesse selon Dieu, c'est parce qu'elle vous fait vaincre votre péché. Quelqu'un ayant la tristesse du monde peut se sentir mal pendant un certain temps, mais il ne vaincra jamais ses problèmes. Avec la tristesse selon Dieu, cela peut ne pas être immédiat, mais vous n'êtes pas satisfait tant que vous n'avez pas surmonté ce problème. Vous entrez en contact avec Dieu et vous lui présentez le problème et vous vous efforcez de tout votre être de devenir semblable à Dieu dans ce domaine. C'est là que vous commencez à faire de réels progrès. Gouvernement. Un dernier point. Dieu établit son gouvernement dans l'Église pour nous aider dans ce processus. Le ministère est là pour une raison. Citation. Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte. Qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Fin de citation. Hébreux 13, versets 7 et 17. Parfois, la repentance envers Dieu est une question d'acceptation de la correction du ministère. Les ministres de Dieu veillent sur vos âmes. Dieu veut que vous ayez une bonne relation de travail avec eux, une relation joyeuse, non pas pénible. Cela ne signifie pas que le ministre fera toujours tout correctement, mais Dieu doit avoir un gouvernement dans son Église pour être en mesure de nous rejoindre parfois. Repentez-vous envers Dieu et n'oubliez pas qu'il a des représentants dans la chair. J'ai été corrigé plusieurs fois dans ma vie, et ça n'a pas toujours été fait correctement, mais j'ai toujours essayé très fort d'accepter la vérité, et j'ai parfois dû prier très fort pour y arriver. C'est un domaine où nous devons aller vers Dieu, et comme David, dire « Sonde-moi à Dieu, révèle-moi mes péchés secrets. Je veux être comme un enfant. » Si nous laissons quelque chose s'envenimer, ça finira par exploser de façon à ce que tout le monde le sache. Le monde entier saura qui est qui quand la tribulation viendra. Tout le monde saura qui est philadelphien et qui est laodicien. Ce sera la fin de leur jeu trompeur. Voici en quoi consiste la vraie repentance. Citation. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Fin de citation. Philippiens 2, verset 5. L'Esprit de Christ doit être en nous afin que nous pensions comme lui. Citation. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Fin de citation. Verset 13. Ce n'est pas un effort humain. Nous pouvons, en fait, ne pas vraiment vouloir surmonter un problème. Mais Dieu dit qu'il nous donnera ce désir. Nous devons aller vers Dieu pour recevoir le désir de vaincre. Si nous le faisons, il promet de nous donner ce désir. Notre repentance sera envers Dieu, puis nous serons capables de surmonter tous les obstacles.
Encadre. Comment prévenir le péché? Vous rendez-vous compte que s'il est mal de faire une certaine chose, il est mal d'habiter des pensées de cette chose dans votre esprit? Tous ont péché, dit l'Écriture Sainte. Qu'est-ce que le péché en tout cas? La définition de Dieu est, citation, « Le péché est la transgression de la loi ». Fin de citation, 1 Jean 3, verset 4. La loi d'amour, comme définie par les 10 commandements. Jésus a dit, je cite, « Ce qui sort de l'homme, c'est ce qui suit l'homme. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes, que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impiédités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard d'envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. » Fin de citation, Marc 7, verset 20 à 22. Toutes sont des violations de la loi, les 10 commandements. Tous ont péché, dit l'Écriture Sainte, et quel homme, surtout quel chrétien, est là qui n'a pas, à un moment et de nouveau, connu la lutte contre le péché décrit par l'apôtre Paul? Citation. Car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Fin de citation. Romains 7, versets 15 et 19. Qui est là qui n'a pas perdu cette lutte, peut-être plusieurs fois? Évidemment, aucun homme, de lui-même, ne peut vivre au-dessus du péché. Citation. Avec les hommes, c'est impossible. Mais avec Dieu, toutes choses sont possibles. Fin de citation, a dit Jésus. Et Paul continue dans Romains 8, versets 4 et 14, pour montrer que la seule délivrance de ce corps de mort est par Jésus-Christ et le pouvoir du Saint-Esprit de Dieu. Citation, c'est l'exigence vertueuse de la loi pour être réalisée en nous, qui ne marche pas selon la chair, mais selon l'Esprit. Ceux-ci sont les fils de Dieu. Fin de citation. Oui, mais nous y avons aussi notre part. Et tout cela est centré dans l'esprit. Le repentir du péché signifie littéralement changer d'état d'esprit au regard du péché. Si nous nous repentons et sommes baptisés en acceptant Jésus-Christ comme sauveur, la promesse est que nous recevrons le don du Saint-Esprit. Je cite, « Et être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. » Fin de citation, Éphésiens 4, verset 23. La présence du Saint-Esprit est le renouvellement de l'Esprit. Comment le péché arrive-t-il vraiment? Citation. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfonce le péché. Et le péché, étant consommé, produit la mort. Fin de citation. Jacques 1, versets 14 à 15. La tentation est dans l'esprit. Quand vous pensez à la chose qui vous tente, vous permettez à votre esprit de s'étendre sur cela, de tourner cela dans votre esprit. Soit ça peut être un désir d'aller quelque part pour faire quelque chose ou avoir quelque chose que vous savez être incorrect. Cette réflexion à ce sujet devient finalement conçue, provoque l'action et produit le péché. Vous faites finalement la chose à laquelle vous avez continué à penser, vous voulez la faire. Si vous continuez à y penser, un moment après vous serez incapable de vous y opposer. C'est pour cela que vous avez perdu tant de cette lutte contre le péché. Vous avez continué à y penser en le désirant, en le voulant. La façon de prévenir le péché et de laisser l'Esprit de Dieu vous remplir l'esprit. Citation. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Fin de citation. Colossiens 3, verset 2. La façon de mettre une chose hors de l'esprit et de mettre une pensée opposée dans l'esprit. Si souvent j'ai remarqué que les parents de bébés s'efforcent si durement de faire taire le bébé quand il pleure. Il y a soit quelque chose qui provoque la douleur, qui devrait être enlevé, ou quelque chose dans l'esprit du bébé qui provoque son cri ou le fait s'inquiéter. Juste dire « tais-toi » ou en ordonnant au bébé d'arrêter de se faire du souci ne donne pas habituellement de très bons résultats. Nous élevions 4 enfants et jadis j'ai appris le truc pour calmer le bébé en attirant son esprit sur quelque chose d'autre. Au lieu de lui ordonner d'arrêter de crier ou de pleurer, attirer son attention sur quelque nouvel objet, le fait de l'intéresser en jouant avec cet objet, j'utilisais souvent mon stylo avec d'excellents résultats. Et avant que vous le sachiez, l'enfant oubliera tout de pourquoi il crie. Essayez d'utiliser cette même méthode sur vous. Mais au lieu de choses matérielles ou de ce monde, une personne adulte devrait utiliser la maîtrise de soi et mettre son esprit sur les choses spirituelles. Ouvrez votre Bible. Mettez l'étude d'un sujet spirituel dans votre esprit. La fois suivante où vous êtes tenté, essayez cela. Priez sur cela. Demandez à Dieu de vous aider. Voyez combien rapidement vous commencez à gagner la victoire sur la tentation et le péché. Et comment merveilleux sera votre croissance spirituelle et votre caractère. Extrait de la Bonne Nouvelle de juin-juillet de 1983 par Herbert W. Armstrong. Information. Pour commander de la littérature de l'Église de Philadelphie de Dieu ou pour solliciter la visite de l'un des ministres de Dieu, adresse postale mondiale. États-Unis. Église de Philadelphie de Dieu. Boîte postale 3700, Edmond, Oklahoma, 73083. Canada. Église de Philadelphie de Dieu. Boîte postale 400, Campbellville, Ontario, L0P1B0. Caraïbes. Église de Philadelphie de Dieu. Boîte postale 2237. Chaguana, Trinidad, Île de l'Ouest. Grande-Bretagne, Europe et Moyen-Orient. Église de Philadelphie de Dieu, boîte postale 16945. Henley and Arden, B95-8BH, Royaume-Uni. Afrique. Église de Philadelphie de Dieu, boîte postnet 219, sac privé X100010, Edenville 1610, Afrique du Sud.
Australie, îles du Pacifique, Inde et Sri Lanka. Église de Philadelphie de Dieu, boîte postale 293, Archerfield, QLD 4108, Australie. Nouvelle-Zélande, Église de Philadelphie de Dieu, boîte postale 6088, Glenview, Hamilton, 3246. Philippines, Église de Philadelphie de Dieu, boîte postale 52143, Bureau de poste Angeles City, 2009, Pampanga. Amérique latine, Église de Philadelphie de Dieu, à l'attention du département espagnol. Boîte postale 3700, Edmond, Oklahoma, 73083. États-Unis.
Entrez en contact avec nous. Visitez notre site web latrompette.fr. Lettre à latrompette.fr. LETTRES@latrompette.fr. Facebook.com/latrompette.fr. Twitter @latrompette-fr.